C'est effectivement peut-être un peu compliqué de replonger dans le livre déjà entamé. Bon, j'espère que chacun a pu essayer de se reconnecter un tout petit peu avec le récit et particulièrement avec la section qui nous intéressait pour aujourd'hui. Alors je vais quand même rappeler en deux mots, on était en train d'étudier un assez long discours, le discours de défense finalement d'Étienne devant Sanhédrin, et donc on est arrivé maintenant au moment où il est interrompu, alors qu'il n'a pas fini sa défense. Donc il est en plein développement de ses arguments, voire aussi de ses attaques concernant le judaïsme tel qu'il est pratiqué à l'époque, et il est interrompu brutalement.
C'est trop tôt.
Peut-être quand vous avez pu le...
On l'a vu au mois d'août, hein.
Oui, on l'a vu.
Bah oui, il était là. Petit garçon grand rêve.
Il a pris deux mois.
Oh, petit garçon, je suis jamais formidable.
Oh, il est mon petit gars.
Ah, il allait rire à sa maman. Je suis toujours du succès.
Allez,
t'es ça,
je t'écoute.
Bien. Donc, comme je le disais, il est interrompu, donc là maintenant, là où nous en sommes, assez brutalement. Et comme vous avez sans doute pu le voir, il n'aura pas l'occasion de reprendre la parole pour sa défense, en tout cas. Il la reprendra pour faire le partage de quelque chose, mais pas pour pouvoir continuer son fameux discours. Et en clair, si on lit quand même entre les lignes, Étienne est finalement assassiné, pas d'autre mot, je pense, pour le dire, et sa mort... va devenir le signal d'une persécution beaucoup plus large qui va, comme le dit le texte, disperser les disciples aux quatre coins de la Judée et de la Samarie. Alors on en reparlera dans un moment. Voilà, moi, ce que je vous inviterai, même si le soleil se couche, je pourrais peut-être ouvrir.
Oui.
Il faut être certain qu'il va tomber. Donc, on va lire à partir du verset 54 le texte jusqu'au verset 4 du chapitre 8. Bon, je ne sais pas si quelqu'un veut le faire.
Je veux bien. Ces paroles les exaspérèrent et ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli d'Esprit Saint, fixa le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Voici, dit-il, que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Puis, tous ensemble, ils se jetèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saul. Tandis qu'il le lapidait, Étienne prononçait cette invocation. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il fléchit les genoux et lança un grand cri. « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et sur ces mots, il mourut. Saul, lui, était de ceux qui approuvaient ce meurtre. Ce jour-là, éclata contre l'église de Jérusalem une violente persécution. Tous, sauf les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Quant à Saul, il ravageait l'église, Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les jetait en prison. Ceux donc qui avaient été dispersés allèrent de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole.
Ça va être mouvementé.
C'est petit, hein, ça.
Ok, donc il y a un certain nombre de questions que j'ai... que je vous ai proposé pour préparer. Et on va d'abord s'arrêter sur le verset 54 en particulier, où il y a deux expressions. Alors, je ne sais pas si vous avez un petit peu travaillé là-dessus. D'une part, il y a les mots, enfin, je traduis littéralement du grec, ils étaient en rage dans leur cœur. Donc là, ça bouillait déjà intérieurement, apparemment. Et la deuxième expression, c'est « il grinçait des dents contre lui ». Et ces deux expressions sont assez intéressantes, assez importantes pour comprendre la violence du récit, finalement. Donc on s'aperçoit qu'en fonction des derniers arguments qu'il a développés, particulièrement à partir du verset 51, où il accuse les membres du Sanhédrin d'être des gens aux courroies, etc. Donc là, il entre en conflit avec eux, ce qui va donc provoquer cette exaspération. Donc la colère, c'est tout ce long discours, et puis maintenant la finale, si je puis dire, les arguments qu'il a entrepris de développer pour leur montrer que leur judaïsme, c'est quand même bien le leur, mais c'est pas celui de l'origine, en gros. Et ça les énerve prodigieusement. Et il y a de nouveau dans le discours, il y avait encore cette accusation qu'ils avaient tué celui, justement, qui était le juste, le fils de l'homme, etc. Voilà, donc ces paroles-là finissent par provoquer un bouillonnement intérieur chez les membres du Sanhédrin qui l'écoutent. Et ça nous rappelle... Enfin, je pense, hein, ça nous rappelle tous un peu l'épisode où les disciples, c'était au chapitre 5, sont passés en jugement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au verset 5, chapitre 5, verset 33, on redécouvre la rage, n'est-ce pas, qui habite le cœur des hommes qui écoutent les disciples. Ça, on voit que c'est la même rage, finalement, qui est là. Et pour faire bref, je pense que la rage, c'est toujours quelque chose qui est aux antipodes de la maîtrise de soi. Hein, quand on est membre d'un conseil, je ne vais pas imaginer une bande de juges, hein, une cour avec 5-6 juges qui seraient tellement en colère qu'ils finissent par péter un câble en pleine audience. Ça paraît invraisemblable, quoi. Hein. Or ici, c'est ce qui s'est passé déjà au chapitre 5. Puisqu'on en est arrivé à des conclusions, il faut les faire mourir. Et ici, on n'en est pas loin, effectivement. C'est la même rage qui anime les membres du Sanhédrin. Évidemment, la rage, comme vous le savez, quand la colère est là, elle est rarement, comment on va dire, maîtrisable. Souvent, on se laisse déborder par sa rage. Et très souvent, ça implique la violence. Et en l'occurrence, la barbarie, ici, dans notre récit. Et la deuxième expression, qui est une sorte de surenchère, si vous voulez, il grinçait des dents contre lui. Ça vous a fait penser à quelque chose ?
Mais dans les évangiles, là seront les grincements des dents.
Oui,
les pleurs.
Donc c'est une expression hébraïque, hein, qu'on retrouve assez souvent dans la Bible. Je pense à un texte de Job, par exemple, chapitre 16, verset 9, ou bien dans le psaume 35, verset 16, où ces expressions reviennent. Et quand cette expression est là, elle indique clairement une hostilité. Hein. Grincer des dents contre, c'est une hostilité visible, et en l'occurrence ici, l'hostilité d'un groupe presque unanime, on va dire, envers Étienne. L'idée, c'est on ne le supporte plus et cette espèce de colère qui devient visible, hein, puisque l'idée de grincer des dents est très physique, si vous voulez. Donc voilà, on voit la contracture des visages, la férocité qui prend le dessus. Bien, cette colère, est, surtout quand il s'agit d'une foule, la colère est bien souvent meurtrière. Hein. Voilà, faut pas, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à certaines manifs, mais si les manifs dégénèrent, c'est parce que trop de gens à la fois sont en colère contre quelque chose, et finalement, ça prend après des proportions absolument non maîtrisables. Et paradoxalement, dans notre texte, on découvre un Étienne quasiment déconnecté de cette situation. Moi, c'est ce que j'ai eu l'impression en lisant le verset 55, que Étienne n'est absolument pas impressionné. Il est même plutôt presque introverti et plus en relation à Dieu qu'à ce qui se passe dans la réalité du prétoire. Hein. Donc, on nous dit, on nous déclare, commencer pour le verset 55, lui rempli d'Esprit Saint. Donc, alors, rempli d'Esprit Saint, ça indique deux choses. Ça indique un homme plutôt connecté au ciel, mais ça indique aussi une action de Dieu. Jusqu'alors, c'est Dieu qui propose cet investissement par l'Esprit Saint, et on découvre dans le texte qu'il s'agit d'une sorte de protection contre la haine, contre la violence qui va se déchaîner. C'est comme si Étienne était doté d'une force intérieure, d'une paix intérieure que Dieu lui accorde contre un moment particulièrement pénible où les hommes ont décidé que ce ne serait pas la justice mais la colère qui l'emporterait. Et cette manifestation donc spirituelle, ça lui permet, alors je ne sais pas si ça vous rappelle certains autres textes du Nouveau Testament, mais ça lui permet de voir ce qui se passe au ciel. Donc lui, on voit bien qu'il n'est plus du tout là, quoi. Il est dans une vision. Alors ça nous fait penser sans doute à des textes très pauliniens, « ravi en esprit », etc. Il y a plein d'expressions de ce type. Paul fait le même genre d'expérience qu'Étienne. On sait que Jésus a eu des moments particulièrement connectés au ciel. On sait aussi que les prophètes, donc tous ceux qui ont précédé dans l'Ancienne Alliance, qu'on appelait d'ailleurs les voyants, hein, puisque Nabi, en hébreu, ça veut dire voir, finalement. Donc c'est des voyants, ils voient des choses que les autres ne voient pas. Et ils voient des choses plutôt spirituelles. Et donc ici, on a un Étienne complètement transformé par Dieu, rempli de l'esprit, et qui assiste à quelque chose que les autres ne voient pas, mais que lui voit. Et qu'est-ce qu'il voit, finalement ?
Jésus, oui, Jésus glorifié, justement.
Alors, il y a deux choses. Hein. Il y a deux choses qu'il voit. D'abord, la gloire de Dieu. Or, on sait, nous, lecteur de la Bible, que voir la gloire de Dieu, c'est pas donné à tout le monde. Quelques hommes dans l'histoire ont eu la chance d'être très proches de Dieu.
Donc moi, ça me fait penser à la transfiguration.
Exactement, une proximité avec Dieu tellement, tellement importante. Et à côté de Dieu, justement à côté de cette gloire, il voit donc Jésus se tenant debout à sa droite. Est-ce que ça vous a interpellé, cette mention ? Parce que d'habitude, qu'est-ce qu'on sait, nous ?
Jésus est assis.
Ah oui, c'est très intéressant.
Debout.
Donc, ce petit détail que Luc, nous offre, alors, on peut imaginer que le Christ debout, ce n'est donc pas le Christ abattu à la croix. C'est celui qui a dépassé la croix, donc le ressuscité, finalement. Mais en même temps, debout ici, alors assis à la droite d'eux, c'est faire partie du même pouvoir qu'eux. Ouais. Être un co-responsable, etc., etc. Mais le fait qu'il est debout devrait nous intéresser particulièrement.
assis, ça fait penser un petit peu à quelque chose de passif.
Oui.
Tandis qu'être debout, c'est
donc il là, est dans l'action. Il y a quelque chose où il est dans l'action. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans un jugement. Pseudo-jugement, hein, mais bon, peu importe. On est devant le conseil. Or, les juges, au moment où ils doivent rendre leur verdict, se levaient. Et ici, la posture de Jésus est la posture d'un juge qui, lui, juge au ciel. Il juge Étienne, mais il juge les autres également. Donc, dans sa posture... Alors, on pourrait presque dire aussi que c'est peut-être la posture de l'avocat, puisqu'on sait que Jésus, c'est le paraclète, c'est celui qui nous défend. Mais en même temps, c'est celui qui nous jugera. Et donc, on peut penser qu'il y a un peu des deux dans cette histoire. Donc, Jésus, le vrai juge, celui qui est debout pour cela, vient justifier son serviteur, à ses yeux en tout cas, et juger les opposants. Jusque-là, tout va bien, on n'a pas d'inquiétude. Là où ça va dégénérer, c'est suite au partage qu'Étienne fait de cette vision. Est-ce que vous avez une idée pour laquelle la colère va se déchaîner, la haine va se déchaîner?
Le fils, hein. Dieu rappelle
ainsi que, ouais, une fois plus qu'ils n'ont pas admis Jésus comme fils de Dieu. Il retape sur le clou. Quoi.
Oui.
Que Dieu n'est pas dans le temple. Il le voit au ciel, donc il n'est pas dans le temple. Jésus est ressuscité. Donc, enfin, il joue vraiment sur tous les points. Il cumule tous les points pour lesquels on critique.
En même temps. Il donne une interprétation de sa vision. Okay, on a vu qu'il voit des choses, mais il ne les dit pas telles quelles. Vous voyez, si vous comparez le verset 55 et 56, il dit de ce qu'il comprend, de ce qui se passe. D'accord ? Papa, tu voulais rajouter ?
Oui, mais je veux dire que Étienne ne dit pas qu'il voit Jésus.
Oui.
Alors le Fils de l'homme, à leurs yeux, Qui
sort
peut-il être?
Alors, on va y arriver. On va y arriver parce que, justement, c'est bien cette déclaration et non pas sa vision qui est en jeu. C'est la déclaration qu'il fait qui va provoquer la haine totale. Et je pense qu'il y a au moins deux choses là-dedans. Il y a d'abord l'idée qu'il donne, qu'il voit les cieux ouverts. Alors ça... On sait, nous, parce qu'on a lu l'Évangile, qu'au baptême de Jésus, par exemple, les cieux sont ouverts. On a vu que les anges de Dieu montaient et descendaient sur le Fils de l'homme dans Jean. Et à l'apparition publique du Seigneur dans l'Apocalypse, Apocalypse 19, verset 11, on reparle de ces cieux ouverts. Donc les cieux ouverts, c'est quelque chose qui a à voir avec le rétablissement de la communication de Dieu avec les croyants. D'accord ? Et ça a été annoncé depuis longtemps. Alors, je pense à un texte particulier dans Genèse 28, l'histoire de ce fameux Jacob et de son échelle. Et qu'est-ce qui se passe sur cette échelle ? Ben, on a la même image d'ange qui utilise cette échelle comme une sorte de prophétie de ce qui arriverait un jour, du rétablissement de la communication entre Dieu et les hommes. Et puis Ésaïe aussi, dans le chapitre 63, parle de cette réalité. Alors on pourrait donc dire que ce qui est à leurs yeux blasphématoire, c'est qu'ils prétendent voir ce que personne ne voit. Ils prétendent voir les cieux qui sont enfin ouverts, donc réalisation des prophéties ou des attentes de chacun. Mais ce qui va sans doute déclencher la colère, c'est ce qui va suivre, c'est-à-dire le fait qu'il dit non seulement je vois les cieux ouverts, donc moi j'ai un lien direct avec le ciel, si vous voulez, mais en plus, le Fils de l'homme est là, debout, à la droite de Dieu. Donc on voit bien l'interprétation. Lui, ce qu'il a vu, c'est Jésus, debout à la droite de Dieu. Et lui, il explique aux autres qu'il a vu le Fils de l'homme. Or, qui est le Fils de l'homme? Excellente question, justement. Eh bien, c'est une expression qui remonte à Daniel, prophète Daniel, au chapitre 7, dans les versets 13 à 14. Je ne sais pas si quelqu'un veut vous lire éventuellement ce texte prophétique. Et le Fils de l'homme, c'est donc une vieille expression. C'est une expression du monde hébraïque, une expression particulièrement dans le prophète Daniel, pour annoncer la venue de celui, alors il ne s'appelle pas Jésus évidemment, de celui qui allait, comment on va dire ça? En fait, c'est déjà une reprise des paroles de Jésus lui-même. Donc si vous regardez dans Luc, toujours dans Luc au chapitre 22, au verset 69, au moment où Jésus est devant Sanhédrin, pour être aussi, soi-disant, jugé, eh bien, il fait cette déclaration au sujet du Fils de l'homme. Donc on peut dire que Jésus lui-même s'identifie, d'une certaine manière, au Fils de l'homme. Or, le Fils de l'homme...
Mais je crois que c'est même pas presque tout le temps. Jésus, quand il parle de lui, il dit le Fils de l'homme.
Oui, oui, souvent.
Ah, ça a plus... Oui,
mais les autres ne l'entendent pas de cette oreille. Hein.
Souvent.
Donc lui n'a pas peur de le dire... Sous-entendu, je suis celui qui réalise les prophéties des prophètes, et en particulier de Daniel. Je suis celui qui doit venir justifier ses serviteurs. Parce que le Fils de l'homme, c'est son rôle dans la pensée des prophètes. Le Fils de l'homme, il vient pour les justes. Il vient pour reconnaître les justes. Et donc, quand Étienne utilise... cette idée qu'il voit le Fils de l'homme à la droite de Dieu, donc il voit celui qui va justifier, n'est-ce pas ? Il est en train de leur dire, d'une certaine manière, qu'il se situe, lui, dans le camp des justes, alors qu'eux ont une idée tout à fait contraire. Ils sont en train d'imaginer qu'il est en plein blasphème, le gars. Non seulement il les attaque, mais il est blasphématoire. Donc lui, il dit non, non, moi je suis bien du bon côté, je suis du côté des justes, et du coup... le camp dans lequel vous vous trouvez, le camp de la haine, c'est plutôt le camp des impies et des oppresseurs, pas du tout celui des justes. Et donc, même s'il ne l'a pas fait exprès, on va dire, si ce n'était pas son intention, il dit ce qu'il voit, il donne une interprétation de sa vie. Cette interprétation va déclencher les foudres, évidemment, puisque non seulement il prétend être dans une communication directe avec Dieu, mais en plus, le Fils de l'homme est de son côté et pas du côté de ceux qui sont en train de le juger. Bref, dans les évangiles, je le rappelle, Jésus évoquait souvent ce Fils de l'homme en s'identifiant à lui. Et ça, ils l'ont entendu de temps en temps, ils l'ont même entendu au Sanhédrin, le jour où ils l'ont jugé. Et pour la première fois dans le Nouveau Testament, c'est un autre que Jésus qui fait référence au Fils de l'homme. Donc ce n'est plus une appellation christique seulement, ce n'est plus seulement Jésus qui utilise cela, mais Étienne, pour la première fois, parle aussi du Fils de l'homme, non pas pour s'identifier lui au Fils de l'homme, mais pour dire qu'il est dans la relation avec celui qui va le justifier. Et c'est finalement ce partage de la vision qui déclenche la folie meurtrière, parce qu'on va voir à quelle vitesse cela va se passer. Hein. On va relire ensemble, alors ça dépend des versions bien entendu, mais en un seul verset, il nous est rappelé qu'ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, puis tous ensemble ils se jetèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Tout ça en un verset très, très court, très bref. Alors on peut se poser des questions. Pourquoi il pousse des grands cris? Ben justement, parce qu'il est blasphémateur. Donc on essaie de couvrir par des hurlements de protestation, on essaie de couvrir sa faute, hein, ne plus entendre le blasphémateur. Et puis il y a le fait qu'il se bouche les oreilles, ben c'est le refus d'entendre un mot de plus sortant de la bouche d'Étienne. Et ce qui est très étrange, alors, c'est cette... manifestation de violence, encore une fois, dans un prétoire, un tribunal, une telle manifestation de violence, au point que c'est presque unanimement, si on relit bien le texte, hein, que tout ce groupe se jette sur lui et l'entraîne. Hein, je crois que ses pieds ne touchent même pas le sol, quoi. Hein. Il l'entraîne et comme la loi leur interdit de le tuer dans l'enceinte de Jérusalem, on est obligé de le chasser, de l'expulser, de l'entraîner à l'extérieur des murs de Jérusalem pour pouvoir lui régler son compte, en fait. Mais en attendant, ce n'est toujours pas un jugement, ça. Ça, c'est l'effet de la colère. Ce qui aurait été juste, c'est qu'il termine son discours et qu'on lui dise « Non, mon vieux, tu as tort et nous te condamnons à telle ou telle peine. » Ici, il n'y a pas eu un prononcé. Aucun juge ne s'est levé pour dire « Écoute, tu es blasphémateur et puisque c'est ainsi, on va prononcer une sentence de lapidation qui va être exécutée immédiatement au sortir de la ville. » Mais ce n'est pas ce qui se passe. On voit bien que c'est la haine, la colère qui l'emporte. Et finalement, le groupe, presque uni dans cette haine, entraîne cet homme, ce jeune homme, hein, rappelons-le, pas si vieux que ça, à l'extérieur de la ville. Et dès qu'ils peuvent, ils commencent à le lapider. D'accord ? Et alors, il se jette sur lui, l'entraîne, nanana. Et alors, c'est là que je vous avais posé une question sur les témoins. Au verset suivant, on dit « Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saul. » Qu'est-ce que c'est que ces témoins ? Parce que
où ça ne semble pas le Sanhédrin, pourtant. Hein. C'est pas sûr que le Sanhédrin avait plutôt...
Tu n'es pas loin de là.
Déjà avec Jésus, hein, puis ils avaient fait dire...
des déclarations fausses.
Que les apôtres, oui.
Ah oui, tous les
je ne sais pas si c'est les mêmes, s'ils sont les mêmes ou du même genre, quoi, du même acabit.
Alors, ce qui est intéressant, ce qu'on doit nous comprendre, c'est qu'en général, quand il y a lapidation, quand cette sentence-là est prononcée, ceux qui commencent à lapider sont ceux qui ont porté l'accusation, qui ont témoigné d'eux. Donc, les témoins qui étaient venus au Sanhédrin, même s'ils ont été soudoyés, hein, on se l'accorde, donc, ceux-là doivent commencer par lapider. Et c'est la raison pour laquelle on nous indique que les témoins, pour pouvoir commencer leur job, ont déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme. D'accord ? Donc, les témoins, c'est ceux qui portent les accusations. Et ça, on découvre ça dans la loi, dans Deutéronome, chapitre 17, verset 7, où lors d'une exécution, les témoins, ceux qui sont à charge, si vous voulez, lapident en premier. Et tous les autres suivent. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu portes une accusation contre quelqu'un, tu dois aller jusqu'au bout de ta responsabilité. Tu ne peux pas simplement te laver les mains puis laisser les autres te bousiller le type, quoi. Donc, tu dois, toi... prendre sur toi-même la responsabilité de la mort d'un autre qui a fauté, admettons-le. Hein, voilà. Et donc ici, c'est ce qui se passe. Hein. On applique en partie la loi. On est en colère, mais enfin, c'est quand même les témoins qui vont commencer leur boulot. Je rappelle au passage que tout ça se passe alors qu'il n'y a pas eu de jugement, pas de prononcé, et que les Romains n'ont pas donné un accord. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne pouvait pas tuer quelqu'un sans l'autorisation des Romains. Donc c'est là qu'on voit que la rage a été le grand animateur de ce moment et qu'il n'y avait plus de raison à ce moment-là. Il n'y avait plus d'intelligence, il n'y a plus rien qui fonctionne normalement. Et donc je reviens aux témoins. Ils déposent leurs vêtements. Alors j'ai lu dans des commentaires, il faisait très chaud, alors ils ont dû se déshabiller. Non, c'est pas, à mon avis, c'est pas tout à fait ça. Donc ils déposent leurs vêtements parce qu'on ne sait pas lapider avec des robes.
Ah oui.
Parce qu'on se prend les mains dans le pan de sa robe et c'est toi qui prends le pavé et pas l'autre. Donc il vaut mieux enlever ce qui gêne pour pouvoir vraiment efficacement tuer l'autre le plus rapidement possible. Donc ils déposent leurs vêtements et alors on a cette espèce de détail, toujours très lucanien, hein, concernant un homme qui s'appellerait Saul, qui serait jeune. Alors, on peut jouer sur les mots, mais jeune, dans le vocabulaire de l'époque, c'est entre 20 et 30 ans. Voilà, en gros, quoi. Hein, l'âge de la responsabilité, quand même. Alors, que fait ce type-là ? On peut imaginer qu'il était au Sanhédrin. Parce que pourquoi il serait assis, lui, en dehors de Jérusalem, et puis tout d'un coup, une foule arrive, et puis on lui dit, tiens, garde nos manteaux. Non, on voit bien, et d'ailleurs, dans la suite du texte, on va vite découvrir qu'il est déjà acteur lui-même. Donc il fait sans doute partie, s'il n'était pas au conseil, il fait partie de ceux qui sont proches du Sanhédrin et qui avaient une dent contre la nouvelle voie, contre le christianisme. Donc ce gars, il n'est pas là par hasard. Il est là parce qu'il participe à ce grand truc d'en finir avec la nouvelle voie une bonne fois pour toutes. Hein. Alors, voilà, ils déposent leurs vêtements auprès de ce jeune homme, qui, on va le voir très vite, va devenir très actif par la suite. Et Luc garde en suspense, je ne sais pas si vous voyez bien sa méthode, l'identité réelle de cet homme. Il ne dit pas que c'est l'apôtre Paul. Il laisse venir les choses. Hein. Nous, on le sait évidemment, donc on ne peut pas ne pas le deviner tout de suite. Mais c'est seulement au chapitre 13 qu'on va découvrir qui est Saul, qui sera Paul quelque temps plus tard. Hein. Donc on peut imaginer aussi que ce jeune homme, qui était pourtant déjà bien versé dans les Écritures, et on va le voir zélé pour punir les chrétiens, cet homme est quand même très impressionné par cette exécution. Peut-être que lui, qui est si à cheval sur la loi, n'a pas apprécié que ce soit la colère qui l'emporte sur la notion de jugement. En tout cas, il est là, et on sait qu'il a été impressionné par cet événement, puisqu'il en parlera lui-même deux fois dans les Actes. Donc dans les Actes, lui-même va expliquer au chapitre 22 puis au chapitre 26 ce à quoi il a assisté, la mort d'Étienne. Peut-être aussi, on peut imaginer, en tenant compte des versets qui suivent, que la prière d'Étienne l'a marqué particulièrement. Donc on y reviendra dans un moment. Voilà peut-être ce qu'on peut dire au sujet des témoins, au sujet de la place que Saul utilise, enfin, ce qu'il est réellement. Il n'est pas là par hasard. Alors on voit dans les versets suivants, 59 à 60, qu'Étienne a encore la force, si je puis dire, le courage, non pas de s'inquiéter de son sort, non pas d'avoir peur de la situation, mais il prend le temps de prier. Et d'ailleurs, le verbe utilisé, épikaloumenon, ici, dans le texte grec, on pourrait presque le traduire plonger dans la prière, comme une absorption, si vous voulez. Donc, au fond, il ne prie pas juste pour dire « Oh, qu'est-ce qui va m'arriver, Seigneur ?» tu vois, mais il est vraiment enfermé dans sa prière. C'est comme s'il ne faisait pas attention à ce qui se passe autour de lui, à la rage qui anime tous ces gens. Et de nouveau, cette attitude, moi, ça me fait penser à Jésus. Donc, Jésus, dans Luc 23, toujours dans Luc, hein, Luc 23, 46, priant son Père, on peut se rappeler le jardin de Gethsémané, etc., etc. On voit un Christ qui, tout en craignant pour sa vie, fait confiance, finalement, et recherche la proximité avec son Père. Et Luc montre donc ici qu'Étienne est mort en martyr, c'est-à-dire en suivant fidèlement les pas du Seigneur. Tout ce que le Seigneur a fait, il le fait. Il prononce quasi les mêmes paroles que Jésus, si vous regardez bien le texte. On va le relire. Alors, rappelons-nous les choses. Hein. Tandis qu'il le lapidait, donc la lapidation a commencé. Il a déjà pris quelques pavés sur la tronche. Étienne prononçait cette invocation. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Bon, ça, c'est la première partie de la prière. Ça nous fait vraiment penser à Jésus. Jésus, oui, exactement. C'est quasi les mêmes mots, quasi les mêmes paroles. On sent cette grande proximité avec Dieu ou avec le Seigneur. Et puis, dit le texte, il fléchit les genoux. Alors là, on ne sait pas si, en général, fléchir les genoux est un acte volontaire et très souvent lié à la spiritualité, à la prière, etc. Ici, peut-être y avoir deux choses. À force de prendre des pierres sur la tronche, on finit par être un peu désorienté. Mais en même temps, je vois que son attitude priante continue. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce grand cri, juste avant de mourir, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et de nouveau là, on est quasi en face des paroles de Jésus sur la croix, envers ceux qui l'ont condamné et tué. Donc on a une grande fidélité aux paroles que Jésus a prononcées au moment de la fin de sa vie. Alors, c'est très intéressant de voir aussi qu'Étienne adresse sa prière non pas à Elohim, mais au Christ, le Seigneur dont il parle. D'ailleurs, il commence par Seigneur Jésus, la première partie de sa prière. Et c'est le même Seigneur avec lequel il conclut. Donc, pour la première fois dans l'Écriture, on voit un croyant adresser sa prière au Fils de l'homme plutôt qu'à Dieu. Donc, cette grande connivence, cette grande proximité. Et ce qui est intéressant, c'est le contenu de cette dernière prière. Cette dernière prière qui est un cri, dit le texte, hein, comme s'il avait vociféré à très grande voix. Et c'est peut-être ce qui a marqué Paul, d'ailleurs. Hein, ne leur compte pas, ne leur impute pas ce péché. Il est en train de confesser, non pas... Alors, oui, juste, j'ai oublié de dire une chose. En général... Quand on était lapidé et qu'on avait encore un petit brin de foi, on confessait ses péchés pendant la lapidation. Histoire de... On ne sait jamais si Dieu me pardonne. Hein. Donc on confessait, c'était la règle. Alors lui, au lieu de confesser ses propres péchés, comme de coutume, eh bien, il confesse à grande voix ceux des autres, ceux que ses accusateurs sont en train de commettre envers lui. Et puis, dit le texte, il meurt. Il suffit effectivement de prendre un pavé au bon endroit dans la tête pour que ça en soit fini. Hein? Bon. Alors, on peut imaginer ici que cette prière ne leur impute pas ce péché a été le déclencheur de quelque chose de fabuleux pour l'histoire. C'est-à-dire que de ce meurtre va naître une église encore plus puissante. Et peut-être même que certains de ceux qui étaient là dans la haine vont eux-mêmes embrasser cette nouvelle voie. En tout cas, on sait qu'il y en a un. Nous, on le sait maintenant déjà. Mais Paul, Saul, qui est là, va effectivement devenir croyant. Donc on peut imaginer que la prière de Tienne a marqué saint Paul. C'est pas possible qu'il n'ait pas pris conscience de ses paroles sur le chemin de Damas quand ça lui tombe dessus, de se rendre compte à quel point il s'est trompé finalement. Et on peut même imaginer que la prière d'Étienne est à l'origine de la conversion de Saul. C'est-à-dire quelque part, si Saul a fait toutes les connexions liées à son histoire et à l'histoire commune avec Étienne, il sait à quel point il s'est trompé et à quel point le Christ est véritablement le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Et alors, comme Luc aime bien garder le suspense, ceux qui lisent son texte au début ne savent pas qu'il s'agit de saint Paul, n'est-ce pas ? Donc, il ajoute, comme pour enfoncer les clous, « Et Saul approuvait ce meurtre. » Verset 1 du chapitre 8. C'est-à-dire, Saul est donc arrangé parmi les oppresseurs, parmi les opposants à la nouvelle voie. Et d'ailleurs, dans la suite du texte, on le voit de manière très claire. Et le texte nous dit donc, toujours au verset 1, que le même jour, donc le jour où Étienne a été assassiné, car il n'y a pas d'autre mot, le jour où il a été assassiné, s'est déclenchée une persécution généralisée contre l'église de Jérusalem. D'ailleurs, pour la première fois aussi dans le texte biblique, l'église est nommée géographiquement. Jusque-là, on ne parlait pas du mot spécialement église, et encore moins d'une église locale. Ici, on nous dit que la persécution s'est abattue dans toute la ville sur ceux qui se dénommaient faisant partie de cette nouvelle voie, de cette secte, si vous voulez. Et on verra dans la suite du texte à quel point ça s'est passé de manière très violente. Et d'ailleurs, on sait par ce verset toujours que ça a été l'occasion d'une dispersion. Alors, on va quand même relativiser un peu parce que on lui dit tous, sauf les apôtres, sauf les douze, si vous voulez, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Pourtant, un petit peu plus loin dans le texte, on nous parle de tous ceux qui sont arrêtés à Jérusalem. Donc tous, on ne sait pas pourquoi il y a cette généralisation, mais on peut dire qu'une partie, en tout cas, de l'Église a été décimée par une dispersion, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas osé affronter la persécution sont partis un peu plus loin. Parce que, bon, Jérusalem, c'est en Judée, hein. Donc ils sont allés aux confins de la Judée, un peu plus loin, pour ne pas être persécutés. Là où personne ne sait d'ailleurs qu'il y a une église à Jérusalem. Et on sait aussi par ce texte que grâce à ça, à cette dispersion géographique, la bonne nouvelle est annoncée en chemin. Pas seulement à destination, mais pendant qu'il voyage, tous les gens qu'il rencontre, tous les bleds qu'il traverse, ils annoncent la bonne nouvelle. Donc c'est qu'on pourrait presque parler d'une explosion missionnaire, si vous voulez. Hein. Quelque part, à cause de la persécution, peut-être de la crainte pour sa famille, ses gosses, etc., ben, l'évangile se diffuse encore un peu plus loin. Et le texte précise quelque chose de très intéressant, c'est que c'est pas seulement en Judée, en Samarie. Et voilà que ça devient super intéressant. Parce que, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais au premier chapitre, verset 8, le Christ attendait, avait ordonné qu'il y ait une vision missionnaire. Et lui-même avait ouvert le pas en disant, ben, il ne faut peut-être pas que ça touche que les Juifs. Peut-être qu'on peut faire autre chose. Le Christ lui-même a montré cela. Il est allé lui-même en Samarie, il est allé en Décapole de l'autre côté du Jourdain, prêcher chez les païens, etc. Il a guéri des gens là-bas. Bon. Donc, on voit bien que son attente était celle-là. Et voilà que la persécution entraîne la réalisation de ce qui avait été ordonné dans le premier chapitre. Alors, on nous dit « Seuls les apôtres demeurent à Jérusalem ». C'est comme si on disait « Eh ben, la tête de l'Église est restée pour continuer. » Non pas pour s'enterrer, s'enfermer, plus comme à la Pentecôte, non. Eux, ils tiennent tête encore. Et avec eux, beaucoup d'autres sont restés à Jérusalem, peut-être ceux qui craignaient moins pour leur famille, etc. Au point qu'on découvre dans la suite du texte que beaucoup de gens étaient arrêtés malgré tout. Hein. Donc, relativisons un tout petit peu le propos du tous et comprenons bien que c'est grâce à ça que tous, ceux qui sont partis, ceux qui se dispersèrent, ont été le fer de lance de la bonne nouvelle en Judée et en Samarie. Je ne sais pas si vous connaissez le théologien Tertullien, c'est un théologien d'Afrique du Nord. Hein. Ce premier grand théologien du IIe siècle a dit ceci, « Le sang des chrétiens est la semence. » Je trouve ça très intéressant parce que le sang d'un seul avait déjà ouvert les portes au salut, mais le sang d'un seul, Étienne, va provoquer la dispersion de l'Évangile dans une contrée assez importante, Judée et Samarie compris. Alors, on reviendra sur la Samarie dans un moment, parce que ça vaut quand même la peine qu'on comprenne bien, mais on va continuer la lecture dans l'ordre, donc on a fini, je dirais, le verset 1, l'explication. On nous dit ensuite que des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Et je me suis quand même, au départ, à première lecture, je me suis dit, ouais, bon, des fidèles de l'Église ont trouvé intéressant de l'enterrer, mais est-ce la réalité ?
Ça n'a pas l'air.
Qui sont ces hommes pieux ?
Est-ce que tous les autres sont partis ?
Non, ils ne sont pas tous partis.
Enfin, il ne reste que les apôtres.
Justement, les apôtres auraient peut-être pu s'en charger.
Mais oui, comment ça se fait que ce n'est pas eux qui ont...
Au verset 2, on dit des hommes de foi, mais...
Alors, essayons de remonter dans ce qu'on a déjà vu, nous. Deuxième chapitre, au verset 5. Parce que c'est la même expression qui est utilisée. Et on va voir de qui il s'agit, en réalité. Or, à Jérusalem, résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc, c'est exactement la même expression. Les pieux, ici, ne sont pas des chrétiens. Ce sont des Juifs pieux. Et vous rappellerez que dans les débuts des Actes, on a vu qu'un certain nombre de Juifs étaient toujours très intéressés par la nouvelle doctrine, même s'ils n'y adhéraient pas. Donc ils pensaient qu'il y avait une part de vérité dans cette doctrine. Et il se trouve que tout ce qui est dit dans ce verset nous montre une attitude typiquement juive. Des hommes pieux ensevelirent Étienne parce qu'il n'est pas possible de ne pas enterrer quelqu'un. Il n'y a pas pire malédiction que de ne pas enterrer quelqu'un. Et donc si on est un homme pieux, un homme attaché à la loi, on va quand même enterrer celui qui peut-être est notre ennemi. On va quand même porter secours. Mais ici, on voit bien que ce n'est même pas un ennemi, puisque la suite du texte nous dit qu'il prononce de grandes lamentations. On sait comment avaient lieu les deuils et les enterrements, avec beaucoup de gestuels, avec beaucoup de pleurs, avec des pleureuses, d'ailleurs officielles, etc. Donc ces hommes pieux, ce sont donc plutôt des Juifs et non pas des chrétiens. Sans doute des amis d'Étienne, malgré tout, des gens proches d'Étienne, qui prennent donc le risque de l'ensevelir en ignorant les menaces et la conduite hostile du Sanhédrin. Alors eux, ils craignent moins pour leur vie, parce qu'eux, ils ne font pas partie de la nouvelle voie. Mais il fallait quand même être culotté pour le faire en plein pogrom, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc oui, ils prennent le risque, et pour éviter le déshonneur à Étienne et aux siens, ils préfèrent l'enterrer. Je pense qu'il fallait quand même une sérieuse dose de courage pour le faire, pour organiser en plus des funérailles solennelles. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'un truc en catimini. C'est pas en cachette. Les expressions utilisées montrent que c'est un véritable deuil, comme un deuil national, si vous voulez. Donc on fait tout ce qu'il faut pour enterrer dans les règles un homme que l'on considère soit comme un ami, soit comme un homme pieux lui-même. Et donc celui qu'on venait d'assassiner avec haine, sous l'effet du fanatisme religieux, est quand même enseveli de manière juste, de manière convenable, de manière honnête. Et je trouve ça assez fabuleux, finalement, comme découverte en tout cas, qu'un certain nombre de Juifs sont restés proches de la nouvelle voie. Et en contrepartie, alors, le verset suivant, qui vient un peu... C'est au contraire la poursuite de la sauvagerie. Hein, on dit bien, clairement, Saul, celui-là même dont on a parlé quelques versets avant, ravageait l'Église. L'expression est assez forte. Hein. Donc, Saul a bien quelque chose à voir avec la violence encourue quelques versets auparavant, notamment par Étienne. Et le texte nous précise une chose très intéressante. Il a ravagé l'Église. Alors nous, évidemment, quand on entend le mot « Église », on voit tout de suite un bâtiment. Mais justement, on découvre ici très clairement à quel point l'Église était une Église de maisons. Dans chaque quartier, il y avait des maisons dans lesquelles des chrétiens se réunissaient pour partager, prier, etc., etc. Et donc, c'est la raison pour laquelle, finalement, ils cherchent les gens là où ils sont. Ils cherchent l'Église là où elle est, c'est-à-dire chez les gens. Ce qui est d'ailleurs assez incroyable, parce que c'est quand même une violation quelque part des domiciles. C'est aussi des arrestations inconsidérées d'hommes et de femmes. Hein. Voilà, parce qu'on ne fait pas dans la dentelle, là. On pénètre dans les maisons, on arrache les gens à leur baraque, hein, en arrachant hommes et femmes, et on les jetait en prison. Alors attention, on ne les jette pas en prison parce que c'est une condamnation, on les jette en prison en vue du jugement. Donc on les a arrêtés pour qu'ils passent en jugement. Et on peut imaginer que, vu le zèle de Saul ici, beaucoup de gens sont arrêtés, et avant qu'ils soient jugés, il faudra un certain nombre de semaines, parce que le Sanhédrin ne veut pas se réunir jour et nuit pour juger des milliers de personnes. Donc quelque part, ça prend des proportions complètement délirantes. Et on voit donc à quel point Saul lui-même est animé de quelque chose qui n'est pas du tout convenable finalement pour un juif. Cette haine-là n'est pas à relier avec le judaïsme, vous voyez ce que je veux dire. Quelque part, c'est vraiment presque un fanatisme. C'est être plus zélé que la loi, en définitive. Parce que tout ça aurait pu attendre. Il n'y avait pas besoin de se déchaîner, d'arrêter des milliers de personnes et d'attendre qu'ils soient jugés. Alors, on en revient. Alors, c'est là qu'on voit que les versets, parfois, sont connectés entre eux. Entre le verset 1 et le verset 4, sur la même information de ceux qui sont dispersés. Donc, ceux donc qui avaient été dispersés allèrent de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Et donc ça, c'est un peu la finale du texte. Ça retentit un peu comme une conclusion, si vous voulez, sur cet épisode, en tout cas, la lapidation d'Étienne et ce qui a suivi immédiatement sa lapidation. Une sorte de conclusion sur cet épisode du meurtre d'Étienne. La persécution sévère, la dispersion des disciples en Judée et Samarie sont à l'origine, nous redit le texte, d'une bonne nouvelle, d'une annonce de la bonne nouvelle, de lieu en lieu, non pas juste dans une ville, mais un peu partout, en dehors de Jérusalem. Et à propos de la Samarie, j'ai promis qu'on y reviendrait. Alors, la Samarie, c'est donc un territoire hors Israël, si vous voulez. C'est pas vraiment un territoire reconnu par les Juifs comme tel, puisque ceux qui y résident, c'est pas leurs ennemis, mais quand même, c'est pas leurs amis non plus. Les Samaritains, observant des rites qui n'ont rien à voir avec ceux du temple. Ils prétendent adorer le même Dieu, mais ils font à leur sauce, et ça plaît pas du tout aux Judéens, justement, aux autorités juives à Jérusalem. Donc, le fait que l'évangile soit annoncé dans un territoire non considéré comme faisant partie du territoire d'Israël, un territoire plutôt considéré comme hérétique par le judaïsme du temple, non conforme au rite du temple. Si des gens là se convertissent à la nouvelle voie, on a donc une idée, une sorte de transition, je ne sais pas, un tremplin, un toboggan vers le salut des non-juifs. Alors, c'est des demi-juifs, si vous voulez. Ils ne sont pas tout à fait hors, disqualifiés. Mais quelque part, si ceux-là acceptent la nouvelle voie, on sent venir le fait qu'en dehors de la Samarie, d'autres vont aussi se tourner vers la nouvelle voie, donc les païens. Et c'est quelque chose qu'on va découvrir très vite, puisque dans la suite du passage, on verra Philippe à l'œuvre en Samarie, en particulier dans une ville, qu'on essaiera d'ailleurs de nommer. Et puis très vite après, ça va prendre des proportions incroyables, quoi. Donc alors, pour la prochaine fois, on essayera d'explorer, à partir du verset 5, si je ne me trompe pas, jusqu'au verset 13. Oui, on va s'arrêter au verset 13 pour ne pas trop en prendre d'un coup. Et donc on va découvrir ce fameux Philippe qu'on avait découvert comme diacre, un pote à Étienne finalement. Donc voilà, Étienne lui est mort, mais Philippe lui n'est pas mort. Et Philippe va prendre un relais assez incroyable parce qu'il va être l'évangéliste clé de ce premier moment de l'histoire de l'annonce de la bonne nouvelle en dehors du territoire de la Judée. Voilà, en gros, maintenant. Je pense qu'il faut quand même tirer quelques conclusions pour nous-mêmes de ce texte. Si on peut partager quelques applications, en quoi ce texte nous a parlé, qu'est-ce que nous découvrons pour nous-mêmes, ou pour l'Église. Est-ce que quelqu'un veut partager quelque chose ? Ou revenir en arrière, poser une question.
Revenir en arrière, je peux. Mais on a parlé que Jésus était debout, et je pense pas que tu aies eu l'occasion d'aller au bout de ton raisonnement. On a dit qu'il était en actif par rapport à Jésus assis.
Dans le jugement, je...
C'était pour ça.
Oui.
Uniquement, essentiellement.
Ben, en tout cas, il prend la posture de ceux qui ne l'ont pas pris la posture.
Voilà.
Donc c'est assez intéressant. Ouais. Les juges, non, se sont pas levés pour rendre leur verdict.
Non.
Ils ont laissé tout déraper. Ouais. Mais le Christ au ciel, lui, prend la défense et le jugement. Donc quelque part, il rend justice à Étienne. Et c'est ce que les autres comprennent bien. Sinon, il n'y aurait pas eu la rage. Pourquoi la rage se déclenche sur base de l'interprétation de sa vision? Parce qu'il est en train de leur dire, le Fils de l'homme me justifie. Moi, je ne me sens pas du tout coupable. Par contre, vous, vous êtes dans le mauvais camp, finalement. Parce que s'il se dresse, c'est pour vous. Ce n'est pas que pour moi. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et c'est d'ailleurs très intéressant de relever chez Luc cette manie du détail. S'il aurait très bien pu dire qu'il voyait le Fils de l'homme, point. Alors ça aurait déjà eu peut-être moins tendance à interprétation. Mais quand une oreille juive entend que le Fils de l'homme se serait levé pour Étienne, donc contre eux, ils n'en croient pas un mot. Et ils préfèrent laisser la rage déborder avec ce qui s'en est suivi. Qui est quand même triste quelque part.
Et quand Étienne dit « Je vois le ciel ouvert », c'est vrai qu'ils ont l'air complètement consternés par ça. Pourtant, ils ont quand même vu le voile déchiré. Ça devrait.
Oui, mais ça ne leur parle pas.
Ça ne leur parle pas, quoi.
Ni ça, ni les tremblements de terre, ni les morts qui sont réanimés.
La résurrection des morts, oui. Non, tout ça, c'est.
Ça n'a pas fait tilt.
Ça ne fait pas tilt.
Mais tu le vois déjà dès le départ avec Jésus, à quel point toutes les prophéties se sont réalisées, mais personne ne le reconnaît. Quand même, c'est assez fou de penser que Jésus, qui est originaire de Nazareth, naît à Bethléem tel que les prophéties l'avaient prévu. En général, tu habites Nazareth, tu nais à Nazareth.
Hein. Ouais,
tes parents habitent là. Ouais. Et il se trouve que, au miracle, il y a ce recensement qui fait que, étant de Bethléem d'origine, ils doivent aller à Bethléem se faire enregistrer. Et pouf, l'autre arrive à ce moment-là. Et pouf, la prophétie.
Réaliste.
Ouais. C'est assez dingue.
Ce que j'avais remarqué, c'est un petit mot. On n'en a pas parlé, mais on dit « mais lui », en parlant d'Étienne, « mais lui, il est rempli d'esprit saint. » Ça fait bien la barrière avec les autres.
Oui, d'un côté, on a ceux qui se laissent submerger par leur colère, et d'un autre côté, on a un homme qui, lui, reste qui il est.
Ouais.
Un homme pieux, un homme serein.
Ça, c'est peut-être une leçon
pour nous. Oui.
Tu vois, quand même, quand on n'est pas d'accord, ou qu'on peut entrer pas en colère, parce que ça, c'est pas. Voilà. Enfin, ça dépend du caractère, hein, mais bon, on peut rester rempli d'esprit quand même si on n'est pas content, si on peut rester conscient, voilà.
Connecté, en tout cas.
Connecté
à sa spiritualité, à Dieu.
À Dieu, oui.
En tout cas, si une chose est claire, moi, dans ma petite carrière pastorale, j'ai assisté à plusieurs grands conflits dans certaines églises. Notamment dans une en particulier, ça avait pris des proportions.
On vient aux mains, hein,
en réunion publique. Donc c'était encore pire.
Oui.
Donc c'était. Je ne vais pas dire ni qui ni quoi, mais. Voilà, une partie des anciens essayaient de virer le pasteur. Comme ils n'y étaient pas parvenus, ils l'ont fait de manière davantage publique. Et finalement, ils ont quand même réussi leur coup parce que beaucoup de gens ont été désorientés par ce conflit et ont préféré voter pour que ça se termine. L'ambiance était terrible, etc. Et moi, j'en ai toujours conclu qu'en Église, on devrait toujours éviter que nos différends, parce qu'il peut y avoir des différends, on est différents, donc nécessairement, on ne pense pas tous la même chose. Donc, et éviter que nos différends soient gérés par la colère. Dès que la colère entre en compte par rapport à une thématique X ou Y qui nous différencie, eh bien, il y en a un qui va vouloir avoir raison et d'autres qui vont devoir avoir tort. Parce que finalement, la colère, c'est toujours très proche de la haine. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que Jésus lui-même dit « Si tu traites ton frère de raca, c'est comme si tu le tuais. » Donc, on voit bien qu'il n'y a pas de barrière entre colère et violence. On peut passer de l'un à l'autre en un éclair. Et donc, moi, je pense qu'il faut toujours laisser la porte ouverte au dialogue, aussi longtemps que c'est possible, à la pacification et au pardon, parce qu'on peut justement en arriver au pardon, et de laisser plutôt à Jésus son rôle d'avocat, ou son rôle de juge, en l'occurrence, pour nous-mêmes comme pour les autres. Voilà, parce qu'on n'a pas toujours raison. C'est pas parce qu'on a une idée et qu'on pense qu'elle est la bonne qu'on a nécessairement raison. Et notamment sur la manière de défendre nos idées. C'est là souvent que nous nous trompons, sur la forme. Et puis je pensais à une deuxième chose aussi. Souvent, on enferme l'autre dans un statut de blasphémateur. Quand quelque chose nous déplaît en Église, une idée, une vision, un projet, etc., on a vite fait d'enfermer l'autre dans « tu es dans l'erreur ». Tu te trompes au niveau spirituel. Et parce que tu es dans l'erreur, alors ça nous donne le droit, tu vois, de ne pas t'écouter, de faire l'économie du dialogue, de ne pas te pardonner, de ne pas chercher la médiation, de ne pas chercher le compromis, de ne pas chercher de solution. Et ça, je pense, c'est évident. Et ça, j'ai toujours essayé d'éviter, même quand moi je pense que quelqu'un est en tort, j'essaye d'éviter de le descendre, de le montrer du doigt, de l'écraser dans son péché, tu vois, parce que ça n'a pas de sens et ça va mener nulle part en réalité. Donc on doit essayer d'éviter ça et de faire en sorte finalement que, plutôt que la colère, ce soit quelque chose de sain qui nous anime et qui nous aide à peut-être confronter les points de vue et à résoudre le différent entre moi et l'autre, en tout cas. Et une autre chose que j'ai tirée comme conclusion pour ma part, c'est au sujet des témoins, hein, ces fameux témoins qui devaient jeter la première pierre. Je me dis que très souvent aussi en Église, on est facilement accusateur, mais on ne va pas toujours jusqu'au bout. Donc, parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de penser qu'un projet est un mauvais projet, mais alors je dois oser aller jusqu'au bout, pas simplement distiller le doute, hein. Tu sais, un tel a dit que patati patata, et finalement moi je m'en lave les mains, je laisse le groupe gérer à ma place ce que j'ai moi-même allumé. Désolé. Donc je pense que si on est témoin ou accusateur, on doit au moins avoir le courage de sa propre responsabilité et d'aller jusqu'au bout d'une action, quitte à perdre, parce que parfois on perd, hein, ce petit jeu là aussi, quoi. Voilà.
Moi, ça m'avait frappé aussi que la loi, elle vient toujours diviser, hein, tout ce Sanhédrin et compagnie, tandis que ce qui est présenté, les chrétiens remplis de l'esprit, notamment ceux comme Étienne, c'est le côté de la relation qui prime, la relation à Dieu et aux autres, comme tu viens de le souligner.
Tout à fait.
Donc, parfois c'est un peu difficile qu'on ait. Enfin, moi je suis tiraillée parfois entre, bon, est-ce que je suis un peu exigeante, je dis la vérité, je vais jusqu'au bout, hein, ou est-ce que je fais triompher le côté compassion, pardon, etc. Et je trouve que c'est, enfin.
Je pense que ce n'est
simple
pour
personne. Moi, j'ai des difficultés de savoir que faire, d'avoir l'harmonie entre ces deux pôles-là.
C'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est qu'est-ce qui anime les chrétiens ? Ces premiers chrétiens sont d'abord des juifs pieux. Donc, ils sont attachés à la loi. Et ce qu'ils ont vraiment compris, c'est que la loi est à dépasser. Donc la loi, ce n'est pas juste l'observance d'un commandement, paf, hein, tu as dit ça, paf, tu prends une pierre sur la figure. Ça va beaucoup plus loin que ça. Donc quelque part, c'est comme si la vision de l'évangile, c'est un dépassement de la loi, ou pour reprendre les paroles de Jésus, un accomplissement de la loi. Donc voilà, on ne peut plus se réfugier derrière le texte en disant « Oui, mais le texte me dit que je dois le tuer. » Oui, mais qu'est-ce qui prime ? Le salut de l'autre ou sa mort, c'est quoi ce qui prime finalement? Et donc c'est un renversement, mais un renversement que le Christ lui-même a observé. Car finalement, Christ qui est Dieu, il s'est laissé mener à la boucherie, il a accepté l'innommable. C'est assez fou quand on y pense, quoi.
Oui, en même temps, il a dit la vérité.
Oui.
Il n'a pas
parfois
hésité.
Même très sèchement.
Mais oui. Alors, c'est ça que c'est compliqué, je trouve. Enfin, j'ai vu plusieurs histoires de relations comme ça blessantes, et je ne sais pas comment m'y prendre, puisque je suis écartelée entre eux. Aussi bien pour me respecter que pour la croissance de l'autre, est-ce que je me tais, hein? Je suis l'agneau à l'abattoir, ou bien je vais quand même dire, mais avec la forme, c'est ça qui est compliqué aussi, c'est parce qu'on ne sait pas non plus trop comment s'y prendre, hein, pour trouver la forme.
On ne sait pas non plus comment l'autre va recevoir ce qu'on va dire.
Mais oui.
T'as beau connaître
qu'on a
quelqu'un,
peur, ouais. Ben oui, que ça amplifie le conflit au lieu d'amener la relation.
Tout à fait. Mais ça, je pense que c'est quelque chose dont on ne peut pas faire l'économie.
Ben oui, oui.
C'est-à-dire ce type d'expérience que tu cites, c'est-à-dire l'hésitation que l'on a entre la défense de la vérité et l'observance de la relation, elle nous habite tous. Oui. Et malheureusement, il n'y a pas de solution miracle à ça. Oui. Donc il y a aussi des... C'est pour ça que je pense qu'il y a des moments où nous nous trompons nous-mêmes. On s'est trompé de stratégie sur ce qu'il aurait fallu dire ou faire. Mais bon, voilà. Après, c'est pas parce qu'on s'est trompé de stratégie qu'on peut pas demander pardon. Donc je pense qu'il y a aussi cette possibilité qui nous est donnée de corriger l'erreur stratégique. Comme je disais tout à l'heure, on ne sait jamais comment quelqu'un qu'on connaît va recevoir nos propos. Peut-être que nos propos vont être trop forts pour lui, alors qu'on a l'impression qu'il était capable de les encaisser. Mais il faut... Malheureusement, voilà, on a cette... Notre humanité est fragile, on ne peut pas tout faire convenablement, et tout réussir convenablement, mais en l'occurrence, je pense qu'il faut toujours cette alliance entre vérité et compassion. Si quelqu'un est dans l'erreur, il est dans l'erreur. On ne va pas lui dire, mais non, c'est pas grave, t'es pas dans l'erreur, continue comme ça. Alors, je pense qu'il y avait encore deux choses que je voulais
mal
ajouter.
Le mal peut devenir un bien, hein, avec toutes les fragilisations. C'est ça, c'est garder la foi. Oh, ça, c'est... aussi tu as parfois des intentions, là, hein, ou dans différents groupes. Bon, comment croire que... Hein, tel cancer, tel burn-out, hein, soi-même comme la personne qui vit, hein, c'est un bien, quoi. Ça peut être un bien, ça peut devenir un bien. C'est pas... Comme donner sa vie, comme sans être martyr décapité, hein, mais donner sa vie vraiment... Pour que vive le ressuscité, c'est... On met Jésus en premier, mais si ma vie était en jeu, ma vie physique, je ne sais pas ce que je ferais. Je crois que j'hésiterai à deux fois. Hein.
En tout cas, moi j'observe une chose, c'est que dans ce qu'on a vu ce soir, devant l'adversité, on a l'exemple d'Étienne, mais qui lui-même copie l'exemple de Jésus, si j'ai bien compris, devant la violence, devant l'opposition des autres, peut-être qu'on doit se souvenir des prières que Jésus et Étienne ont faites. Et je me suis souvent aperçu qu'en tant que chrétien, bien souvent nous prions pour nous-mêmes, pour notre nombril, pour notre sauvegarde, mais rarement pour ceux qui sont en train de nous rentrer dedans. Hein ? On a plutôt tendance à penser à nous. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment prier pour les oppresseurs. Il ne faut pas hésiter à prier pour les oppresseurs, comme l'ont fait Jésus, comme le fait Étienne, pour leur salut, pour leur pardon. Ne leur impute pas cette faute, hier. Donc, d'un côté, il est dans la vérité, puisqu'il dit qu'il y a faute. Et de l'autre côté, il est dans le temps, puisqu'il prie le Seigneur Jésus de ne pas leur tenir compte de leur égarement. Et je pense qu'il y a une raison à cela. Dans l'attitude de Jésus et d'Étienne, le fait de prier pour le salut de ses oppresseurs, de ses opposants, c'est une manière de sortir de la haine, de ne pas sombrer soi-même dans la haine, et de ne pas recourir au mal puisque on veut rester connecté à Dieu. Mais comment rester connecté à Dieu si la colère m'envahit? Est-ce que alors je représente encore quelque chose qui vient du ciel? Pas vraiment. Et puis je voulais finir avec un mot encore sur la haine envers les chrétiens, car c'est de cela qu'il s'agit dans le texte, en fait, entre la mort d'Étienne ou la persécution qui suit à Jérusalem. C'est vrai que bien souvent, on ne comprend pas la haine qui anime des hommes contre le christianisme. Que ce soit chez des musulmans, que ce soit chez des hindous, chez des bouddhistes, etc. Pourquoi cette haine contre la foi chrétienne ou le christianisme ou les chrétiens? En même temps, c'est peut-être pas notre rôle de chercher le pourquoi. Le pourquoi, Dieu le sait. Mais par contre, ce qu'on doit bien comprendre, c'est que Dieu l'utilise toujours. Donc, le contexte de haine dans lequel nous pouvons nous trouver, venant d'opposants, est récupéré par Dieu pour la croissance de l'Église et l'avancement de son règne. Donc ça a toujours été, dans toute l'histoire, depuis que le christianisme est présent, chaque fois qu'on s'est attaqué à l'Église, aux chrétiens, chaque fois elle ressurgit en pire, si je puis dire, en plus grave, ailleurs. Voilà. Donc, il n'y a pas à désespérer du fait d'être la cible d'opposants à la foi chrétienne, que cette opposition soit laïque ou qu'elle soit d'une autre religion, peu importe, ou qu'elle soit politique d'ailleurs. Mais essayons, nous, de garder dans l'idée que Dieu sait faire avec, même si nous mourons. Parce que finalement, Étienne n'a pas désespéré. Puis il va jusqu'au bout et il sait que c'est fini. À partir du moment où il l'entraîne en dehors du tribunal, il sait quel est son sort. Mais ça ne lui donne pas des ailes pour tomber dans la haine et crier à l'injustice ou je ne sais pas trop quoi. Il fait avec, quoi. Voilà pour cette première rencontre. On peut s'arrêter là, je pense, et puis je vais terminer par la prière. Seigneur, encore une fois, nous te remercions pour la richesse de cette parole, tout en finesse, tout en détail, particulièrement chez Luc. Nous te remercions pour la reprise aussi de nos activités. C'est vrai que ça a été un peu long, même si on a eu l'occasion de se voir pendant l'été. Nous te remercions de la fraternité qui nous unit. Nous te remercions aussi pour tous ceux qui sont absents ce soir. Bénis-les, garde-les. Et qu'ils puissent, grâce à l'enregistrement, profiter aussi de ce moment. Amen.
Amen.
Amen. Voilà, je pense qu'on est dans les temps. Hein.